Bonjour à tous, nous sommes réunis pour un show devant ciné avec les sorties du 4 juin. Bonjour Grégor.
Et bonjour Vanessa.
Et bonjour Wassim.
Bonjour Vanessa.
On va parler cinéma. La sortie, bah oui, c'est les nouveautés du 4 juin. Alors, il n'y avait pas grand-chose cette semaine. Alors, on vous a déjà parlé, bien sûr, du film Le Répondeur, dont on a eu la chance de faire l'avant-première. Vous pouvez retrouver d'ailleurs l'émission en podcast ou sur notre application ou sur notre site internet Esprit Occitanie avec le retour de notre chroniqueuse Aude de Clercq qui avait été voir le film et assister au débat public du Répondeur avec la réalisatrice. Mais là, on change d'ambiance. On rentre dans quelque chose de différent. C'est vrai que j'ai l'honneur de parler d'un grand monsieur, Freud, et donc du film Freud, la dernière confession.
À la veille de la Seconde Guerre mondiale, Sigmund Freud s'est réfugié à Londres en compagnie de sa fille Anna. Sous l'effet de l'âge et de la maladie, la star mondiale de la psychanalyse s'est changée en un vieillard aigri et capricieux. Mais la curiosité du professeur est piquée au vif lorsqu'un certain C.S. Lewis, romancier et chrétien revendiqué, le mentionne dans l'une de ses publications. Leur rencontre autour de la question de Dieu va tourner au duel.
C'est ça, c'est un duel de mots. C'est la verbe est folle et bien acérée sur certains mots, sur certaines façons de voir les choses et ça plaît. C'est un duo qui n'est pas complice du tout, qui est vraiment à l'opposé l'un de l'autre, avec le docteur Sigmund Freud, incarné, plutôt habité par Anthony Hopkins. Ce grand monsieur, ce grand acteur du cinéma. Alors, c'est compliqué de jouer avec Anthony Hopkins parce qu'il prend tellement la lumière, il prend tellement tout ce qui vient, il joue merveilleusement bien. Donc, c'est pas évident de se retrouver en face de lui. Mais c'est très très bien interprété par Matthew Good, qui joue le rôle de C.S. Lewis. Ce film est adapté par rapport à une pièce de théâtre. Et on ressent ces effets de cette pièce de théâtre. Parce qu'à des moments, on a vraiment cette impression d'être au théâtre, devant ces deux acteurs confirmés qui nous font une joute verbale et donnent leurs avis, chacun de leur côté, qui peut ne pas être ou peu apprécié par leur interlocuteur. Et oui, le docteur Sigmund Freud prône l'athéisme, tandis que C.S. Lewis, lui, vient de découvrir le christianisme et est complètement dedans en parlant du créateur, tout ça. Quand deux opposés se rencontrent, bah, ça donne des étincelles. Mais pas des étincelles violentes. C'est vraiment des propos qui sont vraiment détaillés. En fait, ce film est extrêmement profond. Si vous passez la porte pour voir un film, juste par curiosité, en vous disant « Oh, c'est Anthony Hopkins !» Je ne sais pas si vous ne serez pas comme deux ou trois personnes de la salle à sortir au bout de 15 à 30 minutes en étant comme ça complètement perdu. Voilà. C'est un film où tu ne te dis pas « je vais le voir par curiosité », mais « je vais le voir parce que j'ai très envie d'en apprendre plus sur Sigmund Freud et un certain C.S. Lewis et son comité de lecture avec un certain J.R.R. Tolkien, le papa du Seigneur des Anneaux, et qui est interprété d'ailleurs par Stephen Campbell Moore. Un grand acteur lui aussi. Hein. C'est, même s'il a pas beaucoup de scènes, je trouve que ce film regorge d'acteurs émérités. Oui, voilà, c'est ça. Qui n'ont plus à faire leurs preuves et qui apportent un certain réalisme à ce film. Et c'est ça, c'est Sigmund Freud qui vous parle des fantasmes, qui vous parle des rêves, qui vous dit que l'importance n'est pas dans celui qui a créé les choses, parce que il est tellement cruel, comment croire qu'il y a quelqu'un qui fait toutes ces choses qui peuvent être horribles? Et on parle de la guerre, puisque on est à l'aube, on est à la déclaration de la Seconde Guerre mondiale, et des premiers bombardements à Londres, et des alertes justement de ces bombardements. Et on va sentir que ces alertes, il y a une alerte qui va se produire. Du coup, on va sortir du cadre de cette maison du docteur Sigmund Freud et on va voir que cela affecte grandement C.S. Lewis. Mais pourquoi ? Eh bien, vous le découvrirez en allant voir le film parce que tout a son importance. Les dialogues, quand ils sortent, quand ils interagissent avec d'autres personnages, quand ils vont avoir des flashbacks de choses qui se sont passées, bonnes ou mauvaises, et ça va donner encore plus d'impact à leur discussion. Parce que Sigmund Freud n'est pas tout jeune, il est malade, il est, pour relater, hein, tout le monde le sait, quand est décédé Sigmund Freud, mais c'est juste... pratiquement après cette discussion, c'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle Freud, la dernière confession. Et ça a toute son importance parce que Sigmund Freud est épaulé dans sa vie par sa fille Anna Freud, qui elle aussi a la psychanalyse chevillée au corps. Et qui traverse beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, dont une relation. Et cette relation ne plaît pas vraiment à son père. Il aimerait autre chose. Et surtout, on a l'impression qu'il est très possessif et que bien sa vision, les choses qu'il dit ou son état de santé requiert complètement la présence d'Anna et qu'elle n'a pas droit à un autre bonheur que celui de partager sa vie. Donc c'est un peu une relation toxique, encore une fois, là entre le père et sa fille, la fille qui est complètement dépendante de son père, et vous le verrez au fur et à mesure du film à quel point et comment ça peut impacter sa propre vie. Et c'est aussi des choses que C.S. Lewis va capter dans la discussion avec le docteur Sigmund Freud, avec Freud. Il va sentir qu'il y a quelque chose par rapport à sa fille, par rapport à d'autres personnes qui ont vécu avec Freud, qui parsème sa vie. Et du coup, voilà, il va se faire son avis et comprendre pourquoi, pour lui, il n'y a pas de créateur, quoi. Et c'est pour ça que sa mission va être très compliquée d'estimer qu'il a le droit de croire en Dieu, de croire au Christ, qu'il n'est pas... qui n'est pas pécheur dans l'âme et que Sigmund Freud se trompe. C'est un peu l'arroseur arrosé. C'est vraiment cette impression. Donc vous verrez que c'est un huis clos. On est vraiment, même s'il y a des moments où on sort du lieu, c'est vraiment ce huis clos dans cette maison, cette discussion entre ces deux hommes qui est vraiment la plus importante, et aussi l'impact que va avoir cette discussion sur ces deux protagonistes et la force de conviction de l'un et de l'autre. Vous ressortez de ce film avec le cerveau en vrac, parce que ça vous fait tellement réfléchir. C'est intéressant. C'est en fait une forme de psychanalyse que vous avez vécue en écoutant ces deux hommes converser, en voyant les autres personnages à côté aussi, qui vous posent plein de questions. Et justement, ces questions vous font tellement réfléchir que vous avez une vision du film en sortant du film, et quelques heures plus tard, vous en avez une autre. Et après avoir dormi, vous en avez encore une autre. Et je trouve que ce film enrichit complètement ma vision, pour ma part, hein, c'est vraiment mon simple avis, que j'ai de Sigmund Freud par rapport à ses écrits, par rapport à pas mal de choses qu'il a vécues. Alors, je vais vous parler un peu du casting, mais sans en dire trop. Je vais dire que donc Anna Freud est jouée par Liv Lisa Fries. Et c'est, elle a vraiment un impact aussi. Elle interprète avec justesse son rôle. Puis vous avez Jodie Balfour qui joue Dorothée Burlingame. Vous avez Jeremy Northman qui joue Dr. Ernest Jones. Vous avez Orla Brady qui joue Jannie Moore. Je vous ai parlé déjà de Stephen Campbell Moore qui joue J.R. Tolkien. Vous avez Ruiz Magnon qui joue C.S. Lewis jeune. Comme je vous ai dit, il va y avoir des flashbacks. Vous avez David Shields qui joue Weldon. Patrick Delaney qui joue Warren Lewis. Et Darek Bishara qui joue Jacob Freud. Et bien d'autres que vous allez découvrir au fur et à mesure de ce film, bien sûr, évidemment, beaucoup, beaucoup dans les flashbacks. C'est vraiment le plus important dans cette histoire, c'est la discussion entre ces deux hommes, leur prise de position, et de voir comment les choses vont être amenées, et surtout aussi la relation entre le docteur Sigmund Freud et sa fille.
J'ai bien aimé. Ouais, je mettrais 7 sur 10.
Quoi ?
Voilà, à chaud.
Merci beaucoup. Je pourrais avoir votre prénom ?
Daniel.
C'était surprenant parce que c'était peut-être pas la manière dont on pensait aborder le sujet de Sigmund Freud. C'est quelqu'un qu'on connaît pas, qu'on caricature beaucoup, et du coup c'était intéressant, donc ça donnait envie d'aller voir ça. J'ai pas toujours compris l'enjeu de certains plans, enfin pourquoi on racontait ça, et des fois j'avais l'impression que ça tournait en rond, mais à la fin tout s'éclaircit et ça devient de plus en plus clair. Voilà.
Merci beaucoup, je pourrais avoir votre prénom ?
Oui, Laurent.
J'ai bien aimé le dialogue en tout cas entre le
oui,
sur fond de guerre en fin de compte. Ouais. Ouais. Je sais que c'était une pièce de théâtre, mais je trouve que le texte est fort et intéressant. En plus sur fond de guerre c'était le bien, le mal, Dieu ou pas,
le
etc.
Le contexte et tout, etc. Ouais. Le côté religieux, tout ça.
Tout à fait, ouais. Enfin, je trouvais ça bien, et Anthony Hopkins, je l'ai trouvé magistral.
C'est vrai. Ah,
c'est vrai qu'il sert beaucoup le film de ce point de vue-là.
Ah, oh, il a quand même un bon complice de jeu.
Après, c'est l'impression que j'ai.
Oui, pas de problème.
Il est magistral, ça veut pas dire que les autres n'ont pas été bien. C'est l'impression que vous me dites. Enfin, voilà, vous me demandez mon avis, voilà ce que je dis, et je trouve que c'est ce qu'il y a de bien aussi, c'est sa force aussi de se mettre dans des rôles aussi, enfin de prendre des risques en fin de compte, hein. Et c'est un pari réussi. Alors c'est peut-être pour ça aussi que j'ai plus relevé Anthony Hopkins en tout cas. Je trouve que c'est, enfin je veux dire, ce dialogue, cette ironie, alors je sais que c'est la pièce de théâtre au départ qu'il fait, mais je trouve que c'est bien relancé, cette ironie, ce regard sur soi-même, sur cette joute verbale entre les deux, je trouve ça, c'est superbe. Ça donne des moments très difficiles, ça met quand même un humour assez, qui peut être parfois grinçant, qui peut être,
oui, mais un peu
qui
noir.
Est un peu noir, un peu ironique, un peu, mais c'est une joute, c'est ce qu'il y a de bien, c'est pas une joute où c'est l'un qui se moque de l'autre, c'est les deux, enfin il y a un jeu entre les deux en fin de compte.
Tout à fait, ouais.
Et je trouve que dans le film, c'est on sent un profond respect l'un envers l'autre en fin de compte. Ils sont gagnés en estime l'un par rapport à l'autre. Donc voilà ce que je veux dire là-dessus.
Merci beaucoup. Voilà, je pourrais avoir votre prénom ?
Patricia.
Professeur Lewis ?
Oui.
Anna Freud.
Ah.
Enchantée.
Pareillement.
Bonne chance.
Docteur Freud ?
Asseyez-vous. Pas là, c'est le divan de consultation. Faites bien attention. Mais pourquoi venir ici pour me parler si vous désapprouvez si passionnément toutes mes idées ?
Vous avez clamé toute votre vie que le concept de Dieu était ridicule.
C'est vrai.
Un conflit entre Dieu et Satan.
Ah, mais je n'ai pas dit du côté de qui j'étais. J'ai pour principe de trouver que ce que les gens me cachent est plus intéressant que ce qu'ils veulent bien me dire.
Tu as fait fuir ton invité, ça y est ?
Non, c'est en cours, mais pas encore. Vous défiez mon scepticisme, n'est-ce pas ?
Oui, tout à fait.
Très joli ! Bravo ! Trop tard pour faire demi-tour, je le crains. Nous n'avons jamais acquis assez de maturité pour affronter seul la peur du noir.
De quoi ai-je si peur, selon vous ?
Ah, nous sommes tous terrifiés. Oui, nous pouvons enterrer nos doutes, nos souvenirs de guerre. Mais au fond de nous, mon cher, nous sommes tous des lâches. Face à la mort.
Le deuxième film dont on va vous parler, je crois que c'est un film qui était attendu quand même. Hein. Alors, quand on parle de Ballerina, tout de suite, on fait référence à l'univers de John Wick.
Se déroulant pendant John Wick, Parabellum, Ballerina suit la vengeance implacable d'Eve Macaro, la nouvelle tueuse de l'organisation Rusca Roma.
Voilà, ça suffit. Je pense que ce synopsis est très bien, il n'en dit pas trop. C'est pas le cas de la bande-annonce, c'est dommage. Quand vous l'écoutez, ça va. Quand vous la regardez, c'est un peu plus, ça ouvre encore un peu plus de portes. Et oui, je trouve ça un peu dommage, parce que j'aurais aimé que des scènes d'action, par exemple, qu'on voit dans le film, ne soient pas montrées pendant la bande-annonce, mais c'est aussi pour faire vendre le film et pour emmener le spectateur à venir et de se dire « Waouh, ça va être un super blockbuster, je vais être bien et on va profiter. » C'est sûr que tout de suite, au tout début du film, on nous pose le décor. On nous montre vraiment ce qui a conduit Eve Macaro, qui est très bien interprétée par Anna de Armas. Franchement, elle joue vraiment bien et on ressent toutes ces émotions. Et voilà, ce qui va amener Eve Macaro à rentrer dans une certaine organisation qui est soit protecteur, soit exterminateur. Voilà, c'est l'un ou l'autre. C'est un peu le fait d'avoir un ange ou un démon, mais du côté, t'as un contrat. Et ce contrat, tu protèges une personne de la mort envers et contre tout, et tu peux même donner ta vie pour la personne. Soit tu as un contrat sur une personne pour la tuer, et là tu vas tout faire pour y arriver, quitte à exploser tous ceux qui sont sur ton passage. Voilà, c'est un peu ce près ça. Seulement, c'est pas évident de devenir un protecteur, une protectrice, ou une tueuse, ou un tueur, un assassin. Qui n'a pas d'émotion, Donc il y a un apprentissage. Et cet apprentissage va prendre du temps. Et ça va être avec une certaine Sharon Duncan Brewster qui joue le rôle de Nogi. C'est ce film, juste ces moments-là m'ont fait penser à Divergente. Avec cette jeune, justement, qui n'est peut-être pas à sa place et quelque chose s'était produit. Et donc, elle avait décidé de suivre sa propre voie et de faire quelque chose où on ne l'estimait pas. Eve Macaro, c'est à peu près pareil. Alors, pas dans ce sens-là, puisque elle, c'est parce qu'elle a vécu un drame et que elle a la vengeance. Ouais, elle a la vengeance chevillée au corps. Je peux pas dire autrement. Et que voilà, elle sait ce qu'elle doit faire, mais en même temps, on voit par rapport à John Wick qui a l'air d'un Terminator. C'est vraiment le truc qui me dit, enfin voilà, il tire partout, tout le monde en a peur. Il est quand même désigné comme un peu un monstre, le Baba Yaga. Donc là, ça tout de suite, quand t'entends ce nom-là, ça donne des sueurs froides et t'as plus envie de t'enfuir que de l'affronter. Là, c'est différent. Elle a des faiblesses. On le ressent dans son apprentissage. On le ressent aussi tout au long du film. Mais comme lui dit à un moment Nogi, tes faiblesses, tu es une femme. Ne te reproche pas d'être une femme. Ne te bats pas comme un homme. Bats-toi comme une femme. Et fais de tes faiblesses ta force. Voilà. Et ça c'est vraiment très fort. C'est là où elle va prendre conscience que... voilà. Mais on sait aussi que quand on la voit se battre, d'ailleurs les combats sont magnifiques, hein. Bravo, félicitations aux cascadeurs, aux cascadeuses, parce que pour moi, je trouve que ça... Il y a des combats où, franchement, je pense que les effets spéciaux n'ont pas été mis en place et tout, mais qu'il y a des très très belles préparations pour ces combats en question, et que, pour des questions d'assurance, hein, tout le monde n'est pas Tom Cruise qui peut faire ces cascades. Beaucoup d'acteurs et actrices souhaitent faire des cascades souvent et t'as le bâton de l'assurance où ça coûte très très cher et du coup il vaut mieux faire appel à des professionnels qui sont aguerris et qui font des choses assez impressionnantes. Un combat dans une boîte de nuit, je vous dis que ça pulse bien. Et voilà, à chaque fois on se dit waouh, est-ce qu'elle va s'en sortir quoi? Est-ce qu'elle va réussir? Est-ce que... on a peur pour elle. On a peur pour elle. Et c'est ça qui est plus intéressant qu'avec John Wick. Pour lui, en fait, on n'a jamais peur pour lui. Parce qu'on se dit qu'il est indestructible. Et que quoi qu'il arrive, même s'il se fait blesser, s'il a des choses, tout ça, il va toujours se relever. Et toujours affronter et tout. Donc on le voit au fur et à mesure de la saga. Donc c'est vrai que ça perd... de son importance. Alors qu'avec Eve Macaro, eh bien là, c'est intéressant justement de voir ses faiblesses et de voir comment elle va être ingénieuse et utiliser des choses qu'on n'aurait pas utilisées, quoi. Et c'est... je peux vous dire qu'il y a des combats assez forts. Je n'avais jamais vu des utilisations comme ça de la grenade, par exemple. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Une arme, je choisis les grenades et je m'éclate avec. Et là, ça dépote bien. Ça a le mérite de voir des bons effets spéciaux et de voir qu'il y a vraiment cette qualité dans ce film. Et puis aussi, tout ce qui va lui passer par la main peut devenir une arme. Des patins à glace, des piles d'assiettes. Et d'autres choses, et voilà. Plein de choses. Vous penserez à moi quand vous verrez ces scènes, vous dire « Waouh, boum, qu'est-ce qu'elle fait avec les piles d'acier ? Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle fait avec les patins à glace ?» Voilà, vous verrez. Et puis d'autres armes, bien sûr, qui sont communs, hein, les armes à feu, tous les trucs assez inimaginables qui peuvent exister. On la sous-estime beaucoup. Mais oui, une femme, elle a montré ses faiblesses, on la sous-estime, mais la vengeance qu'elle a chevillée au corps va lui donner une force tellement impressionnante que on se demande si elle va s'en sortir ou pas. Parce que ça va tellement lui changer le regard aussi. À ce moment-là, ça va être très très fort. Elle a ce côté protectrice et en même temps ce côté tueuse. Et le côté tueuse va prendre un pas tellement fort que même l'organisation dont elle fait partie n'aura pas voix au chapitre. Mais ça, vous le découvrirez en allant voir le film. Je vais vous parler quand même du casting qui est assez impressionnant. Ian McShane qui joue le rôle de Winston, Angelica Houston qui joue le rôle de la directrice, Gabriel Byrne qui joue le rôle du chancelier, The Chancellor, Lance Reddick qui joue le rôle de Charon, Norman Reedus qui joue le rôle de Daniel Pine. Je vous ai parlé de Sharon Duncan Brewster qui joue le rôle de Nogi. Et oui, Keanu Reeves qui joue le rôle de John Wick. Bah oui, c'est dans l'univers, comme tu l'as dit, hein, d'un John Wick en question qui fait référence et on le voit. Voilà, c'est pas centré sur lui, heureusement. Enfin, je veux pas dire heureusement, mais c'est plus intéressant de voir le côté d'Eve Macaro et tout. Il a son importance dans l'histoire et justement dans la vie d'Eve, et vous découvrirez aussi pourquoi. Vous avez Robert Meiser qui joue le rôle de Dex, Abraham Popula qui joue le rôle de Frank, Togo Igawa qui joue le rôle du capitaine, Catalina Sandino Moreno qui joue le rôle de Lena, David Castaneda qui joue le rôle de Javier, et des personnages que vous avez déjà vus dans des films assez forts, assez fous français. Anne Parillo, mais je ne vous dirai pas ce qu'elle joue. Non, vous le découvrirez. Et un certain Daniel Bernard aussi, qui est présent. Voilà, c'est vraiment un très beau casting, d'après les personnages, bien sûr, créés par Derek Kolstad. Hein, on ne lui enlève pas cette voix-là, puisque Ballerina fait partie de l'univers de John Wick, encore, je le rappelle, réalisé par Len Wiseman, qui nous emmène vraiment dans ce monde et dans ce côté vengeance, jusqu'où on peut aller par vengeance. Par cette âme meurtrie qu'on a en nous, et tout ce qui va se passer autour, toutes les personnes qu'on va rencontrer, même des retrouvailles impromptues que vous vous attendiez pas du tout et qui vont changer aussi beaucoup la donne. Mais là, je vous en dis déjà trop, je vous propose d'écouter vos avis.
Dans la droite ligne de John Wick, très bien, vraiment. Il y a toujours des surprises, mais c'est beaucoup d'action et un bon moment de détente.
Merci beaucoup, je pourrais avoir votre prénom ?
Stéphane.
En vrai, je trouve pas mal, hein, par rapport à, on va dire, issu la lignée des autres John Wick, quoi.
Oui.
Après, c'est pas non plus c'est pas un cinéma de grand auteur, mais c'est vrai que si on aime le style, c'est quand même intéressant. Quoi.
Merci, je pourrais avoir votre prénom ?
C'est Antoine.
Excellent, très bien. Ça prend la suite de John Wick et tout le reste. Non, excellent, mais j'attends la suite.
Oui.
Voilà.
Merci beaucoup. Je pourrais avoir votre prénom ?
Noman.
Dans la mythologie slave, la Kikimora est un esprit qui existe dans les ténèbres. Pour ceux qui ont de la noirceur dans leur cœur, elle peut être vengeresse. Mais pour les innocents, elle peut être protectrice. À toi de choisir.
Bienvenue au Continental. Une chambre ?
Je recherche le clan avec ce symbole.
C'est notre curiosité qui nous a bannis du Jardin d'Éden. Êtes-vous prête à être bannie une nouvelle fois, Ève ?
Oui. J'aimerais aller chasser.
Ce sera pour du gros ou du petit gibier ?
Du gros.
Tu sais pas dans quoi tu mets les pieds.
Cool.
Ce sera une déclaration de guerre si elle n'est pas rappelée à l'ordre.
Je pourrais peut-être envoyer quelqu'un pour régler le problème.
Le Baba Yaga. Laissez le loup à sa proie.
Elle vous a envoyé pour me tuer ?
Ou tu peux arrêter.
Je n'arrêterai pas.
C'est ton choix. C'est ton destin. Tu Tu ne pourras pas le changer.
Les règles.
Et leurs conséquences.
C'était Chaud Devant, ciné, les sorties du 4 juin. Merci beaucoup, Wassim.
Merci, Vanessa.
Et rendez-vous au cinéma. Merci au Pâté Labège, au Pâté Wilson et au Cégère Blagnac de nous recevoir, bien entendu. Et courez, courez voir ces films au cinéma. Dites-nous ce que vous en pensez aussi dans les commentaires. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know.